Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de
Dieu
qui renverse des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Sophonie chapitre 3, verset 16. En ce jour-là, on dirait à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Dit l'Éternel. Si dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu qu'on perd seulement 15 fois, mais on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois les caractéristiques d'un Père dans l'Ancien Testament en parlant de Dieu le Père. Sa plus grande joie, c'est nous. La première fois que ce verset m'a vraiment frappé, et enfin, il est devenu une révélation. Et je dis pas ça souvent, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des révélations pour les petits déjeuners, des visions pour le déjeuner, et les rêves pour le soirée. Ils sont tellement, tellement spirituels. Moi, je suis pas si spirituel que ça. Mais de temps en temps, le Seigneur, il me parle d'une manière bouleversante. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai donné un cours biblique à l'école biblique de Bruxelles, la Continentale. Et il m'avait demandé d'enseigner les petits prophètes. Alors moi, les petits prophètes, j'avais un peu l'idée, je crois, que les enseignants, ils doivent choisir entre eux. Et ceux qui perdent, ils doivent enseigner les petits prophètes. Parce que j'avais déjà lu les petits prophètes beaucoup de fois. Et les petits prophètes, pour moi, c'était la malédiction, le malheur, les gens qui se rebellent contre Dieu, ils sont punis, et toutes les Dieu les prévient de ce qui arrivera à cause de tout. Et j'avais tout ça en tête. Et j'ai commencé d'enseigner ces livres, je crois qu'il y a 12 à peu près. Alors, et là, j'ai trouvé des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Un Dieu qui nous aime dans les petits prophètes. Dans cette dernière partie de l'Ancien Testament, quand je suis allé pour enseigner Osée, bon, ça j'avais déjà vu. J'ai vu un homme, un prophète, qui s'est marié avec une femme qui a été prostituée. Elle a quitté la prostitution pour se marier avec lui. Elle lui a donné un fils. Et puis, un deuxième enfant. Mais cet enfant-là osait commencer d'avoir des doutes sur sa femme, sur la parenté de cet enfant. Il n'était même pas sûr que c'était à lui. Le troisième enfant, il lui a donné un nom qui veut dire « par le mien ». Parce que c'était pas son enfant. Sa femme, lui, avait été carrément infidèle. Et un jour, la vie avec trois enfants, la vie avec le mari, la vie monotone de la maison et tout ça, ça devenait trop pour elle. Elle voulait la vie rapide, la vie qui bougeait, la vie amusante, la vie gaie. Alors, elle a quitté Osée avec trois enfants. Elle est allée vivre de nouveau la vie d'une prostituée. Au début, si vous voulez, une prostituée bien payée comme ça, bien acceptée. Mais à la fin, quand on la trouve au chapitre 3, elle est descendue très, très bas. Et le Seigneur dit à Osée, va l'acheter, va la reprendre. Et Osée, il la sauve de l'esclavage et elle redevient sa femme. Et Dieu dit, c'est comme ça que mon peuple Israël s'est rebellé contre moi. Mais pour montrer à Israël, même dans le rébellion, il les aimait toujours. Il donnait cette image de la femme prostituée que le prophète a repris comme femme. Il a dit, moi je désire faire comme ça avec mon peuple Israël, qui m'a été infidèle. Et je dis, Seigneur, quel amour un mari qui peut aimer sa femme infidèle comme ça, et un Dieu qui peut aimer son peuple infidèle comme ça. Je suis allé un peu plus loin. Un jour, Amos. Et là, Amos, c'est un livre que je connaissais pas très bien. Mais Amos, il a été envoyé dans le nord, dans Israël. Je crois qu'il était de Judée. C'était même pas un prophète. C'était un fermier, un cultivateur. Le Seigneur lui a envoyé avec un message pour Israël. Il n'aimait pas trop son message. Mais un beau jour, le Seigneur lui a donné, au chapitre 9, le Seigneur lui a donné une vision, excusez-moi, chapitre 7. Et il voyait la moisson d'Israël. Il a dit, le deuxième coupe, ce qui se passait à cette époque-là, la première fois qu'il coupait le grain de la moisson, enfin, il devait le donner pour les taxes, les impôts. Mais le deuxième, c'était pour vivre. Et Amos, il voyait dans sa vision des sauterelles qui venaient, qui consommaient tout ça. Et il voyait, Amos, que c'était un désastre pour le peuple. Et il priait, dit Seigneur, écoute, pardonne Israël. Ils sont tellement petits. À ce moment-là, j'avais un problème dans l'église avec une certaine personne qui croyait que je ne faisais pas mon travail comme pasteur comme il fallait. Et j'avais mal avec ça, parce que c'est une personne, ma femme et moi, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour aider cette famille, pour aider cette personne, et parce que cette personne était jalouse d'une autre personne, elle était fâchée parce que moi, je faisais pas certaines choses et je laissais faire certaines choses à cette autre personne. Elle m'a écrit une lettre. La lettre, ça brûlait même avant que je l'ouvre. C'était tellement méchant. Et elle m'a dit, en effet, que moi, je faisais pas mon travail comme pasteur comme il fallait, parce que là, tu sais, si je faisais mon travail, je laisserais pas cette autre personne faire ceci, et je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Écoute, moi, quand j'ai lu cette lettre, j'avais dans mon cœur composé une lettre en retour. Et vraiment, je n'allais pas lui dire des quatre vérités. J'avais 5, 6 ou 7 vérités pour elle. Et tous les 7 auraient été vrais. Mais vous savez, dans mon cœur, je me dis, ça, si je me comporte comme elle, qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça sert? Alors je lui ai écrit, j'ai donné son nom, j'ai dit, écoute ça. Un jour, je vais me tenir devant le Seigneur de comment j'ai été comme pasteur dans cette église. Et je dis, ça me fait peur. Et je dis honnêtement, ça me faisait peur. Parce que je dois faire un rapport devant le Seigneur. Je veux être fidèle dans mon intendance que le Seigneur m'a donnée. Et je dis, je ne sais pas. Et je dis, je fais des erreurs. Mais devant Dieu, je fais comme je crois que Dieu veut que je fasse. Et selon la parole de Dieu, m'enseigne de faire. Et si je fais mal, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, mais je dois faire ce que je crois est juste et correct. Et je lui ai envoyé, pas de méchanceté. Puis, en allant à l'école biblique cette semaine-là pour enseigner ce cours, ça me revenait. Et cette femme, je connaissais son arrière-plan. C'est sa mère. Et la situation familiale était terrible. Et je vois un peu d'où elle venait et tout ça. Je commençais à prier pour elle. Et au lieu de la détester, j'étais fâché avec elle, c'est vrai. Mais le Seigneur a mis, et ça venait pas de moi. Ça venait pas de moi. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, à partir de ces versets, une compassion pour cette femme. Et je dis, oh Seigneur, elle est si petite. Elle est si petite. Aie pitié d'elle. Seigneur, aie pitié d'elle. Vous savez ce qui s'est passé le dimanche après? Elle disait, David, j'aimerais bien te parler. À part. Ça, c'est toujours bien, hein, pasteur, j'aimerais bien te parler ici dans la petite salle. Oh Seigneur, où sont les gants de boxe? Protège-moi, s'il te plaît. Mais, on est allé, elle était avec son mari qui ne savait même pas ce qui s'était passé. Elle a dit, David, pardonne-moi. Elle a dit, moi j'avais tout ça et je vidais mon sac et après ça va. Et j'ai dit, écoute, oui, mais tu as vidé le sac dans mon estomac. Et pensez à cela quand tu vides ton sac, parce que ça va dans l'estomac de quelqu'un d'autre. Amen. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, David, pardonne-moi, avec des larmes, pardonne-moi. Et ce n'était pas seulement des larmes de crocodile. Ce jour-là, je voyais un changement en elle. Vis-à-vis cet autre frère, elle a changé. Et au lieu de le traiter avec méprise et commencer de le traiter avec respect, le Seigneur a rétabli cette relation. Mais je commençais de voir l'amour de Dieu pour ceux qui ne méritaient pas son amour, pour ceux qui en réalité méritaient une punition de Dieu et peut-être même des hommes par le comportement. Et je dis, Seigneur, tu es comme ça. Et puis un peu plus tard, en lisant Sophonie répondait à tous les temps que j'avais des petits prophètes. Si tu commences avec Sophonie, tu as assez de punitions, assez d'éclairs, assez de foudre, assez de menaces, assez de rébellions, c'est plein, et tout un coup, tu vois que tout change. Et le Seigneur, il voit ce qu'il va faire pour son peuple Israël. Parce qu'il voit qu'il y a un peuple qui va se retourner vers lui. Oui, ceux qui persistent dans la rébellion sont punis. Mais Dieu voit qu'il a un peuple qui ne persiste pas dans la rébellion, qui ne persiste pas en faisant contre lui, qui auront de nouveau un cœur qui est humble, qui a un cœur d'enfant, qui s'approche de lui avec simplicité et sincérité et amour. Il prophétise de ce qui va arriver avec ces gens-là. Il disait que là où tu es en opprobre, tu vas être honoré. Il dit tout ce qu'il va faire. Mais il voit, il montre ce que Dieu, au verset 10, ce que Dieu fait pour son peuple. Je ne sais pas si j'ai un verset que j'aime mieux dans tout l'Ancien Testament, peut-être dans toute la Bible. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. J'aimais bien des héros. Quand j'étais jeune, je voulais être cowboy, comme Roy Rogers. C'était mon héros. Et puis, John Wayne, il n'était pas aussi bien que Roy Rogers. Mais vraiment, je voulais être un cowboy, un héros. Oh ben, si c'est pas ça, je voulais être comme Flash Gordon. Il volait dans les espaces et il tuait les créatures extraterrestres. Il était fort et beau et je voulais être un héros. Je voulais pas être nul, je voulais être héros. Et vous aussi, vous voulez être. C'est pas vous les femmes, mais je crois que les garçons, ils veulent être héros, n'est-ce pas, Rimacher? Amen. Oui, plus ou moins. Ils voulaient être joueurs de batterie ou quelque chose comme ça, quand ils sont grands. Mais là, Dieu est un héros qui sauve. Il commence de révéler son caractère. Dans la classe, là, à Bruxelles, je vais te dire ça plus tard, mais ça commence d'être une révélation. Un héros qui sauve. Vous savez, un Dieu qui ne fait rien, ça vaut pas grand-chose. Et un Dieu qui n'est pas de ton côté, mais qui est de l'autre côté, ça c'est pire que rien. S'il est contre toi, qu'est-ce qu'on aurait fait si Adolf Hitler avait été omnipotent, qui était tout puissant, hein? Si Dieu était un Dieu comme ça. Mais c'est un héros qui sauve. Il est de notre côté. Et si tu es son enfant et tu es dans le besoin aujourd'hui, Dieu est de ton côté et il veut venir comme John Wayne sur son grand stallion blanc pour te sauver. Dieu veut nous sauver de nos péchés, de nos dépressions, de nos difficultés. Il veut venir à côté. Soit nous délivrer, ou soit nous donner la force pour passer à travers. Sa grâce, et l'un c'est aussi bien que l'autre. Et la deuxième chose, on voit ici, il fera de toi sa plus grande joie. Un peu plus tard, il dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans la classe à Bruxelles, il y avait une fille de Paris qui s'appelait Céline. Et j'ai dit, Céline, aide-moi avec mon français, s'il te plaît. Comment avoir un transport d'allégresse en français? Et elle a fait, wouh! Au beau milieu de la classe. C'était une classe un peu bizarre. Et c'était alors que j'avais une révélation. Et je blague pas maintenant. Tu sais, depuis mon enfance, j'avais toujours un problème de croire que Dieu m'aime. On vient d'un coin du monde où les gens ne s'expriment pas beaucoup leur amour. Ils s'aiment, mais ils ne le disent pas. Et des fois, ils ne le montrent pas trop non plus. Je vous ai dit par le passé que ma mère, elle avait des problèmes de nerfs et de dépression qui retombaient sur nous, les enfants. Et vous savez, les enfants, ils ont un peu le sentiment de croire que Dieu est comme le parent. Et surtout parce que nous les parents, on utilise Dieu pour faire chantage avec nos enfants. Ah, si tu fais ça, Dieu ne va pas être content. Ce que tu veux dire, c'est, moi je ne vais pas être content si tu fais ça. Hein? Mais on utilise Dieu. Alors l'enfant, oh là là, si je fais ça, Dieu ne va pas être content. Et on commence à avoir une idée que Dieu est comme papa et maman. Certaines choses, c'est bien, peut-être, mais vous savez, des fois, moi, j'avais une idée tellement stricte, tellement rigide de Dieu. Fais pas ça, fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas perdre ton salut. Si tu fais ça, tu seras éternellement en enfer. Si tu fais ça, et ça, et ça. Et puis, écoute, moi, je crois de tout mon cœur, il faut vivre une vie sainte. Et moi, je crois que je mène une vie beaucoup plus comme le Seigneur maintenant qu'avant, quand j'avais tellement peur. Parce que maintenant, je ne fais pas la justice simplement parce que j'ai peur que Dieu va me frapper. Je le fais parce que j'aime Dieu et je ne veux pas blesser son cœur et je veux réjouir le cœur de mon Père. C'est toute une autre façon de vivre. Et quand je voyais, j'étais pasteur, missionnaire depuis des années, mais quand cette fille a fait ça, c'était comme si je voyais Dieu le Père sur le trône en train de penser à moi, David, qui faisait... C'est mon fils. Et j'étais content. Parce que pour moi, Dieu ne fait pas... Dieu est calme. Des fois, il est fâché, mais... Tu imagines Dieu qui se comporte comme nous, des fois? Ah, je me souviens de quand mes enfants étaient au match de football ou de basket. Papa, il était là, toujours dans les gradins, en train d'aider les arbitres. Parce que vous savez, les arbitres, ils sont toujours pour l'autre équipe. Alors, il faut leur rappeler que quand ils font des bêtises, il faut le dire. Et ma femme, elle dit, mais David, tais-toi, c'est pas un bon témoignage, ça. Je dis, non, c'est pas mauvais. J'essaie de l'aider. Parce que si je ne lui dis pas qu'il fait mal, il ne saura pas. Elle dit, David, oui, mais tu sais, quand c'est ton enfant, un enfant de 4 ans qui joue dans un match de basket, pour le papa, c'est comme le Coupe du Monde, 3 fois. Le final. N'est-ce pas? Tu es là, wouh! Je me souviens, mon deuxième fils, Charles, et une fois, c'était un match de basket, un tournoi là, et nous, les supporters de l'équipe de Charles étaient là, et les supporters de l'autre équipe étaient là, juste à côté, on ne se connaissait pas. Alors, juste au début du match, Charles, mon fils, il a fait un tir en suspension de beauté. Ah là là, c'était beau. Et j'ai entendu un supporter de l'autre équipe, il dit, ah, il va falloir conserver celui-là, il est fort. Et papa, je voulais faire une annonce. C'est mon fils, ah! Des fois, on ne veut pas faire des annonces. C'est la fille Félix, c'est le fils Félix. Hein. Mais on est fiers. Tu peux imaginer, même nous les grands-parents sont pires. Ils ont des photos, n'est-ce pas? Et si vous vous approchez des des parents, ils vont vous infliger des photos de leurs petits-enfants. Ils ne veulent pas voir les photos de vos petits-enfants tellement moches, mais ils veulent vous montrer les photos de leurs petits-enfants qui sont le plus beau, le plus intelligent, le plus du monde entier. Mes petits-enfants, ils me font beaucoup penser à moi. Pourquoi? Parce qu'on les aime. On les aime. Vous imaginez Dieu, je sais, excuse-moi cette illustration, c'est un peu ridicule, mais tu imagines Dieu au ciel, avec un grand porte-monnaie, tellement grand qu'il ne peut pas bien assis sur son trône, avec ta photo, et 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 ma photo. Et de temps en temps, toutes les 3 minutes, il les sort. Hé, Gabriel, regarde, oh, il est beau, n'est-ce pas, Seigneur? Regarde ces photos, j'en ai assez de tes photos. Je les ai regardées 1000 fois. Oui, mais c'est mon fils. Donne la bagarre, donne la lutte, dans le combat spirituel. Est-ce que tu peux entendre la voix du ciel de ton Père? Allez! Allez! Tu peux le faire! Enfin, il joue avec vous parce qu'il est de votre côté. Et c'est ton Père. Il fera de toi sa plus grande joie. Des fois, je ne comprends pas Dieu parce qu'il n'est pas comme moi. Vous imaginez ce qu'il y a dans l'univers. On a exploré un tout petit peu, la Lune, un peu Mars. Mais Dieu a fait un univers si grand qu'on dit, si vous voyagez à la vitesse de lumière, c'est un peu plus vite que Paul roule sur l'autoroute, mais pas beaucoup, mais enfin pas autant, parce que tu sais, on a des radars ici dans l'église maintenant, je les vois, j'étais un peu effrayé quand j'ai vu, mais on m'a dit que c'est pas ça, c'est pour les galeries. Mais si vous voyagez à la vitesse de lumière, c'est assez vite, n'est-ce pas? Il vous falloir 14 milliards d'années de lumière d'aller un bout de l'univers jusqu'à l'autre. Alors, qu'est-ce que Dieu a dans tout cet univers? Je ne sais pas. Mais si la terre et tout ce que Dieu a créé ici donnent un tout petit aperçu, il y a des choses dans cet univers qui sont époustouflantes. Et moi, si j'étais Dieu et j'étais connaisseur d'art, je me promènerais sur les étoiles, les planètes que j'avais créées avec tout ça. Quelle forme, quelle beauté, oh, quelle vie que j'ai créée là. Ou bien, s'il était connaisseur des autres, d'une autre planète avec toutes ses merveilles. Ou bien, des autres. Et vous savez quoi? Dieu, oui, ça c'est bien. J'aime bien l'art, j'aime bien la beauté. Ça se voit bien par sa création, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a rien qui lui donne plus de joie que toi. Pas les Alpes. Et les Alpes sont parmi les plus belles montagnes du monde. Pas le Méditerranée, pas le Luxembourg qui est tellement beau, ce côté de l'Allemagne, toute la Belgique, les Ardennes, des fois je dis waouh, waouh, waouh. Et Dieu dit oui, c'est vrai, mais tu sais, tout ça c'est bien, mais c'est toi qui me donnes ma plus grande joie. Quand j'étais tout jeune pasteur, dans la première petite église où on était aux États-Unis, là, j'ai commencé à quelle heure? Je mets toujours mon montre, mais j'oublie de regarder à quelle heure je commence. Alors, je crois que j'ai commencé il y a 10 minutes. Alors, j'ai encore 10 minutes. Mais dans cette toute petite première église, un de mon choix, j'ai prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin, j'ai demandé aux gens de venir pour la prière. Mais il y avait une fille qui venait, et écoute, par n'importe quelle définition, vous pouvez dire elle était belle. Elle n'était pas belle. De tout. Mais c'est une fille, 14 ans, ses parents, je crois qu'il y avait divorce, division, je crois qu'elle vivait une partie du temps avec les grands-parents. Et une vie assez difficile. Et cette nuit-là, elle venait pour la prière, pas pour le baptême du Saint-Esprit, parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand j'ai prié pour elle, j'ai ressenti dans mon esprit seulement de lui dire encore et encore, Jésus t'aime, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Je crois que j'ai dit ça 25 ou 30 fois plus. Encore et encore. Et au feu et à mes yeux, tu voyais les larmes qui coulaient, cette fille qui cherchait la face du Seigneur. Il y avait une belle chose qui a été faite dans sa vie ce soir-là. Elle est devenue belle par le Saint-Esprit. Là, elle est revenue à sa place juste avant de partir. J'ai dit, écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien partager ce que le Seigneur a fait ce soir? Parce qu'on avait une bonne réunion comme ça. Et la fille, elle se tient debout avec les larmes qui courent. Elle a dit, ce soir, quand je suis venu à la réunion, je croyais que personne ne m'aimait. Et elle a dit, maintenant, je sais que le Seigneur m'aime. Parce que Jésus s'est révélé par son esprit. Et ce soir, peut-être même il y a des gens dans la réunion, et vous êtes venus. Vous avez même pensé au suicide parce que vous vous êtes dit, mais il n'y a personne qui m'aime. Si je ne suis pas là, ça va. Le monde va continuer parce qu'il n'y a personne qui se suicide vraiment. Oh, on va pleurer quelques larmes et puis après. Et vous avez pensé, il vaut mieux que je prenne ma propre vie même. Ou d'autres. Vous aimez le Seigneur, vous courez pour le Seigneur, mais dans ton cœur, tu as vraiment, vraiment mal à croire que Dieu t'aime. C'est pas si la parole est vraie. La parole dit que c'est toi sa plus grande joie. Son Église et les membres de l'Église individuellement. Toute dernière chose, il gardera le silence dans son amour. Alors j'ai regardé plusieurs commentaires pour voir ce que ça voulait dire. Il gardera le silence dans son amour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il garde le silence. Et certains disent, oui, il gardera le silence sur tes péchés. Il va oublier tes péchés. Et quelque part, bon, il ne les oublie pas, seulement il les pardonne. Mais quelqu'un a dit quelque chose que j'aime bien et je crois que dans le contexte, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Il a dit, tu sais, les gens, quand ils s'aiment, des fois, ils n'ont pas besoin de paroles. On voit les deux jeunes qui s'aiment tellement. Et là, ils sont en train de se regarder dans les yeux. En France, on dit, l'amour est beau. Moi, je dis des fois, c'est un peu ridicule, mais ça... Mais ils se regardent dans les yeux. Pas de paroles. Mais il y a quelque chose qui passe. Dans son amour, il gardera le silence. Peut-être des fois, il ne dit rien, mais il garde le silence. Et puis, je me souviens des fois, mes enfants, quand ils étaient là, en train de dormir, ils sont tellement, tellement mignons quand ils dorment. Des fois, quand ils ne dorment pas, ils ne sont pas tellement mignons. Mais quand ils dorment, ils sont tellement mignons. Et là, regardons ma fille, mon cœur a gonflé jusque presque éclaté. Des fois, le Seigneur garde le silence, seulement en nous regardant. Il nous aime tellement. Et c'est le dernier verset qui dit, « Il y aura pour toi des transports d'allégresse. » C'est un peu difficile de traduire de l'hébreu. Et certaines versions ont dit que il, dans son amour, il chantera pour nous. C'est ce que les gens font quand ils sont amoureux, n'est-ce pas? Vous chantez pour votre femme? Combien de vous, les hommes, vous chantez pour votre femme, pour votre copine, votre petite amie? Laisse-moi voir la main. Très, très haut. Oh, vous êtes pitoyables. Oh, là, là. Moi, je chante pour ma femme. I got sunshine on a rainy day. Des fois, elle dit, arrête, arrête. Parce que tu sais, des fois, chanter, c'est pas l'amour, c'est la punition. Là. Ça dépend. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu t'aime assez pour chanter pour toi? On voit dans un autre endroit, dans les psaumes, Dieu des chants de bataille. Mais moi, je crois que Dieu, il aime bien chanter. Quand j'ai dit ce matin, j'ai dit, Dieu est humble. Ça, c'est une idée que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Dieu est humble. Mais est-ce que vous pouvez imaginer Dieu qui chante? Pour moi, c'était difficile. Des chants de bataille, des chants de victoire, et aussi des chants d'amour. Pour toi, pour moi, peut-être, des fois, dans la prière, si on peut la boucler, pour juste un moment, écoutez bien, peut-être on entendra la voix du Seigneur en train de chanter un chant d'amour pour lui. Nous chantons un chant d'amour pour le Seigneur, et si nous écoutons bien, peut-être nous écouterons, nous entendrons un chant d'amour pour nous. Venant du ciel, il fera de toi sa plus grande joie. Je sais. Je suis tellement content que le Seigneur m'a choisi quand je suis venu. Il y a des gens qui disent, on vient au Seigneur. Bien sûr, Dieu veut sauver le monde entier. Et un jour, il m'a vu. Moi, j'étais personne, petit campagnard perdu dans la campagne, avec une famille qui marchait, parce que j'apprécie beaucoup le fait que maman et papa ne se sont pas quittés, mais ce n'était pas toujours facile. Des fois, il y avait des cris, pas beaucoup, mais des cris, et surtout maman avec nous, comme j'ai dit ça pour être méchant, mais pour vous expliquer, parce que j'aimais beaucoup maman, et je comprends beaucoup mieux maintenant. Mais dans le temps, c'était pénible. La dépression, on a subi tout ça. Et si on ne fait pas attention, on se reproduit plus tard aussi. J'avais une grand-mère, vous connaissez beaucoup, et je parle pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que dans un moment, vous donner l'occasion de connaître le Seigneur. Mais j'avais une grand-mère qui aimait le Seigneur Jésus-Christ. Elle est venue au Seigneur quand maman avait 19 ans. Maman, elle n'avait pas l'occasion de grandir dans une famille chrétienne, un foyer chrétien. Et c'est peut-être pour cela. Et s'il avait connu le Seigneur, je crois que le Seigneur l'aurait aidé de faire face à toutes ces choses qui étaient difficiles. Mais elle n'avait pas ça. Et puis quand grand-mère est venue au Seigneur, j'ai dit grand-mère est venue au Seigneur, mais c'est pas exactement ça. Grand-mère est venue au Seigneur! C'était plutôt ça, parce que c'était la kamikaze du Seigneur. La chose avec grand-mère, disons, elle était un peu trop des fois, mais elle t'aimait tellement que tu ne pouvais pas ne pas l'aimer. Hein. Et en plus, elle faisait des tartes aux pommes. Ah là là, alors tu pardonnes un peu trop de zèle. Et grand-mère, quand j'avais 3 ans, elle disait à mes parents, emmène David chez moi. Je vais l'emmener à l'église. De la campagne, loin. On avait un voyage de 30 kilomètres. Une partie, c'était même pas les routes goudronnées à cette époque-là, il y a 50 ans de cela. Mais je suis là, je suis allé chaque fois. Chaque dimanche, j'étais là. Chaque dimanche, j'étais là. Grand-mère, des années. Et nous, parce qu'à la maison, c'était le désordre total, c'était rien. C'était grand-mère qui aidait pour nous préparer, pour aller à la réunion, pour nous donner le bain et tout ça. En allant à l'église, souvent, grand-mère dans la voiture, elle disait, David, tu as lavé derrière tes oreilles. Oui, grand-mère. Ça, c'est toujours la réponse, parce que tu sais, si tu n'avais pas ce qui attend. Mais grand-mère n'était jamais contente de cette réponse. Elle regardait derrière mon oreille. Et je dois dire, Martial, ça t'a déjà arrivé, que quelqu'un vient à l'assemblée, il regarde derrière ton oreille, il dit, tu n'as pas lavé derrière l'oreille. Ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Tout le monde s'en fiche, sauf les grands mères et les mères. Parce qu'ils croient, elles croient que tous les autres grands-mères et les autres mères sont en train de regarder derrière l'oreille de leur petit-fils. Ah, quelle grand-mère! Son petit-fils a de saleté derrière l'oreille! Alors, c'est très important pour les grands-mères. Je vous donne un peu la philosophie de cela. Mais, alors, grand-mère est regardée et j'aurais pu laver derrière l'oreille 50 fois. Elle aurait trouvé quelque chose. Et vous savez ce qu'il a fait? Aïe, aïe, aïe. Et si les cheveux faisaient le garde de vous derrière, c'était like, oh, ça collait bien quand même. Mais c'était pas toujours facile de tout avec 3 petits-enfants parce que mon petit frère, ma petite sœur sont venus après. Mes grand-mères et grand-pères étaient tellement, tellement fidèles. Combien de fois j'entendais cette belle histoire de Jésus-Christ au genou de grand-mère. Vous savez, je ne me souviens plus de ces premières prédications parce qu'on avait des bancs dans l'église. Normalement, je m'allongeais sur le banc quand le pasteur prêchait et je dormais, comme beaucoup d'entre vous, vous souhaitez faire cet après-midi, mais il n'y a pas un banc. Alors, mais vous savez où j'ai entendu la prédication? C'était grand-mère qui m'a raconté les histoires de Jésus, David et Goliath, Daniel dans la fosse de lion, tout ça. Ça commençait de rentrer dans ma vie. Jusqu'à même à l'âge de 4 ans, je me souviens de penser à Dieu, les choses de Dieu, de commencer de prier au moins. À l'âge de 7 ans, un jour, un dimanche matin, de m'approcher du Seigneur, là devant, et dire, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, de vraiment chercher la face du Seigneur. 7 ans, d'où venait ça? C'était pas de mes parents, ils ne venaient même pas à l'église. Plus tard, oui, mais à cette époque-là, pas du tout. Mais c'était une grand-mère qui avait planté l'évangile dans mon cœur. Tu dis, David, est-ce que ça tient la route? Je suppose, ça fait, quoi, 47 ans de cela presque maintenant. Ça tient toujours la route. La décision d'un enfant de 7 ans. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, quand il sauve, il sauve. Pour lui, ça lui est égal si c'est un enfant de 5 ans ou une grand-mère de 55 ans ou 65 ans. Jésus sauve. C'est un héros qui sauve. Et cet après-midi, si vous êtes dans la réunion et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Peut-être même dans la vie, c'est pas du tout comme vous voulez. Écoute, ce soir, cet après-midi, et c'est le moment. Je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ t'aime. Il est mort à la croix de Calvaire pour tes péchés, pour mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour pour montrer que Dieu a la puissance de vaincre pour démolir notre péché. Et il donne la vie nouvelle à tous ceux qui viennent à lui par la foi en Jésus-Christ, en se demandant pardon, en changeant la vie par la puissance du Saint-Esprit, en mettant la confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour le salut. Ça marche? Si, ça marche. J'ai déjà vu, je crois, des centaines, des milliers de fois, le Seigneur fait ce grand miracle de la nouvelle naissance. Les gens deviennent vivants dans leur esprit. Eux qui étaient morts, qui n'avaient pas du tout cette compréhension de Dieu, cette relation avec Dieu, tout d'un coup, ils prient par la foi, ils se repentent de leur péché, et tout d'un coup, c'est comme une lumière qui s'allume dans toute leur vie. C'est Jésus qui fait la différence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, j'aime bien la version seconde, il dit pas que toute personne, il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Un peu plus tard, en Romains chapitre 10, et à peu près le verset 10 là, verset 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu dis, oh David, c'est difficile de croire que quelqu'un est ressuscité de la mort. Non, non, pour moi c'est pas difficile, parce que quand je prie, il est là. Il est vivant, je sais qu'il est là, je sens sa présence. Je ne prie pas un Dieu qui est mort, je prie un Jésus qui est vivant. C'est pour cela que je sais. Je ne sais pas qu'il est vivant à cause de toutes ces choses scientifiques et tout ça. Je ne suis pas contre la science, mais je sais qu'il est vivant parce que je lui ai parlé. Il est vivant. Et il dit un tout petit peu après ça, quiconque, ce mot encore, quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. J'aime beaucoup ce mot quiconque. Quand j'étais pasteur au Luxembourg, on avait pas mal de Congolais, Aïrois, dans l'église. Ils ont une belle langue, Lingala. Bon, ils ont plusieurs langues, mais Lingala, on est une, là. Le chant de Jésus, Azalia, ça c'est Lingala. Et alors, quand j'entends ce mot, quiconque, moi, ça chante un peu. C'est presque comme une langue africaine. Ça chante tellement bien. Ça, c'est beau, quiconque, quiconque, quiconque. Et voilà! Et vous savez ce que ça veut dire, quiconque? Ça veut dire quiconque. N'importe qui. Toi aussi. Parce que toi aussi, tu es un quiconque. N'est-ce pas? Toi aussi, tu es quelqu'un pour laquelle Jésus-Christ est mort. Toi aussi, tu es quelqu'un qui est aimé de ton Père. Toi aussi, tu es quelqu'un pour lequel Jésus a donné sa vie. Quiconque croit en lui, quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas compliqué. Si vous voulez connaître le Seigneur, faites appel au nom de Jésus. Dis Seigneur, ma vie tout entière, je te la donne. Qui sait, peut-être sur le tronc, il va faire « Wouh !» Un autre fils, une autre fille. Quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Cet après-midi, Dieu veut que tu saches que tu es aimé.